La chevelure vole d'une flamme à l'extrême, Occident de désir pour la tout éployer se pose, je dirais mourir un diadème, vers le front couronné son ancien foyer. Mais sans or soupirer que cette vie nue, d'ignition du feu toujours intérieur, originellement la seule continue, dans le joyau de l'œil véridique ou rieur. Une nudité de héros tendre diffame, celle qui ne mouvant bague ni feu au doigt, rien qu'à simplifier avec gloire la femme, accomplie par son chef fulgurante l'exploit, de semer de rubis le doute qu'elle écorche, ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, pour le retour triomphal de Les yeux ont des oreilles après la pause hivernale. Après plus d'un mois de silence, nous revenons pour, on l'espère, votre plus grand plaisir. Une question me brûle les lèvres, mais avez-vous deviné quel serait le thème de ce 18e numéro de notre belle émission de lecture ? Bon, la question est purement rhétorique, je sais que vous vous êtes jeté sur le player de transistor.fr après et seulement après avoir lu le titre de l'émission et vu l'image de couverture, bref. C'est bien des cheveux qu'on va parler. Blonds ou bruns, lisses ou bouclés, courts ou longs, ils parsèment la littérature presque autant que le sol de votre salle de bain. C'est Agère qui vous a enchanté en début d'émission avec la chevelure de Mallarmé. Comme vos yeux ont des oreilles, je peux vous décrire Agère, qui a les cheveux noirs, longs et bouclés. Bonjour Agère.
Bonjour.
À sa droite, Céline a également les cheveux longs, bruns, plus clairs, Mélisse, elle a failli faire revenir la Bible dans l'émission avec les cheveux de Samson, mais elle lira des textes plus variés pour ne rien vous spoiler. Hello Céline.
Bonjour.
Enfin, la star du moment à Transistor, c'est Mathilde, alias l'Adorbi, et son succès a sûrement quelque chose à voir avec ses cheveux au burn. Oh pardon, au burn. Big up à toi Florent. Mathilde, bien remise du gala ?
Très bien remise, bonjour Nicolas.
Bon, eh bien, puisque tu sembles si dynamique, c'est avec toi que nous allons continuer, Mathilde, en restant dans le domaine de la poésie. Baudelaire a écrit, bien sûr, son recueil « Les fleurs du mal », mais aussi le « Spleen de Paris », aussi appelé « Petit poème en prose ». Donc après la lecture de « La chevelure », cette fois de Baudelaire, hein, ah, ces poètes, aucune originalité dans les titres, ça sera à mon tour de vous lire « Un hémisphère dans une chevelure », toujours par notre cher Charles, mais avec moins de rimes.
Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé. Et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir ?
Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilure et de mature. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs.
Quand la fille aux cheveux de soie me demande ce que je veux boire, je laisse couler, j'aime voir tout se renverser. Quand la fille aux cheveux de lin me réveille au matin,
je ne sais. À l'instant, sur les ondes littéraires de Transistor, c'était La fille aux cheveux de soie, chantée par François and the Atlas Mountains. On va quitter les cheveux poétiques de Mallarmé et Baudelaire pour partir vers des textes un peu plus terre-à-terre. Si les cheveux de l'être ému sont idéaux, les cheveux dans la vraie vie, ça pousse, ça s'abîme, ça se perd. Le personnage qui est le plus concerné par cette évolution des cheveux, c'est bien entendu le coiffeur. Dans cet extrait du Paysan de Paris, d'Aragon, Céline va vous parler du beau métier de coiffeur pour dames.
Je voudrais savoir quelle nostalgie, quelle cristallisation poétique, quel château en Espagne, quelle construction de langueur et d'espoir s'échafaude dans la tête de l'apprenti, à l'instant qu'au début de sa carrière, il se destine à être coiffeur pour dames et commence de se soigner les mains. Enviable sort vulgaire, il dénouera désormais tout le long du tour l'arc-en-ciel de la pudeur des femmes, les chevelures légères, les cheveux vapeur, ces rideaux charmants de l'alcôve. Il vivra dans cette brume de l'amour, les doigts mêlés aux plus déliés de la femme, au plus subtil appareil à caresse qu'elle porte sur elle avec tout l'air de l'ignorer. N'y a-t-il pas des coiffeurs qui aient songé, comme des mineurs dans la houille, à ne servir jamais que des brunes, ou d'autres à se lancer dans le blond ? Ont-ils pensé à déchiffrer ces lacis où restait tout à l'heure un peu du désordre du sommeil ? Je me suis souvent arrêtée, au seuil de ces boutiques interdites aux hommes, et j'ai vu se dérouler les cheveux dans leurs crottes. Serpent, serpent, vous me fascinez toujours. Dans le passage de l'opéra, je contemplais ainsi les anneaux lents et purs d'un piton de blondeur. Et brusquement, pour la première fois de ma vie, j'étais saisie de cette idée que les hommes n'ont trouvé qu'un terme de comparaison à tout ce qui est blond, comme les blés. Et l'on a cru tout dire. Les blés, malheureux, mais n'avez-vous jamais regardé les fougères ? J'ai mordu tout un an des cheveux de fougères. J'ai connu des cheveux de résine, des cheveux de topaze, des cheveux d'hystérie. Blond comme l'hystérie, blond comme le ciel, blond comme la fatigue, blond, blond comme le baiser. Sur la palette des blondeurs, je mettrai l'élégance des automobiles, l'odeur des sainfoins, le silence des matinées, les perplexités de l'attente, les ravages des frôlements. Qu'il est blond le bruit de la pluie, qu'il est blond le chant des miroirs. Du parfum des gants au cri de la chouette, des battements du cœur de l'assassin à la femme feur des cities, de la morsure à la chanson, que de blondeur, que de paupières. Blondeur des toits, blondeur des vents, blondeur des tables ou des palmes. Il y a des jours entiers de blondeur, des grands magasins de blond, des galeries pour le désir, des arsenaux de poudre d'orangeade. Blond partout. Je m'abandonne à ce pitch-pin des sens, à ce concept de la blondeur qui n'est pas la couleur même, mais à une sorte d'esprit de couleur, tout marié aux accents de l'amour. Du blanc au rouge par le jaune, le blond ne livre pas son mystère. Le blond ressemble au balbutiement de la volupté, aux pirateries des lèvres, aux frémissements des olympides. Le blond échappe à ce qui le définit par une sorte de chemin capricieux où je rencontre les fleurs et les coquillages.
Je relis mes nuits, je rêve d'aventure, j'ajoute la couleur, il en manque, j'en suis sûre. Ensuite je brosse et brosse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi.
Blond partout, vient de lire Céline. Et du coup, on retourne en enfance avec une chanson Disney, oui, qui est extraite du dessin animé Réponse, blond partout, je vous avais dit, où l'héroïne possède voilà, de longs cheveux de plusieurs mètres de long, qu'elle utilise bah, par exemple pour se suspendre au plafond, ou d'autres situations, où dans la vraie vie, elle se retrouverait juste avec de très gros problèmes. Mais Réponse, elle s'en fout. Elle fait même le ménage avec ses cheveux éparpillés sur le sol. Bonjour l'hygiène.
Parce que nous le valons bien.
Réponse, elle ferait mieux de les couper, ses cheveux, en faisant, par exemple, appel à un coiffeur pour dame. Elle pourrait même offrir des mèches de cheveux à son prince charmant. Oui, sauf que quand elle les coupe, ils perdent leur couleur. Dommage. Les gens normaux, eux, peuvent s'offrir des mèches de cheveux. C'est Agère qui va à nouveau lire, cette fois un extrait de la nouvelle Novembre de Flaubert. Non, Mathilde, ne t'évanouis pas de bonheur.
Qu'ai-je donc ce soir ? Tu m'as mise tout en feu, j'ai envie de boire et de danser en chantant. As-tu quelquefois voulu être un petit oiseau ? Nous volerions ensemble. Ça doit être si doux de faire l'amour dans l'air. Les vents vous poussent, les nuages vous entourent. Non, tais-toi, que je te regarde longtemps, afin que je me souvienne de toi toujours. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Reprit-elle. Mais pour m'en souvenir, pour penser à toi. J'y penserai la nuit, quand je ne dors pas, le matin, quand je m'éveille. J'y penserai toute la journée, appuyée à ma fenêtre pour regarder les passants. Mais surtout le soir, quand on n'y voit plus et qu'on n'a pas encore allumé les bougies. Je me rappellerai ta figure, ton corps, ton beau corps, où la volupté respire, et ta voix. Oh, écoute, je t'en prie, mon amour, laisse-moi couper de tes cheveux. Je les mettrai dans ce bracelet-là, ils ne me quitteront jamais. Elle se leva de suite, alla chercher ses ciseaux et me coupa derrière la tête une mèche de cheveux. C'étaient de petits ciseaux pointus qui crièrent en jouant sur leurs vis. Je sens encore sur la nuque le froid de l'acier et la main de Marie. C'est une des plus belles choses des amants que les cheveux donnés et échangés. Que de belles mains, depuis qu'il y a des nuits, ont passé à travers les balcons et donné des tresses noires. Arrière, les chaînes de montres tordues en huit, les bagues où ils sont collés dessus, les médaillons où ils sont disposés en trèfle, et tous ceux qu'a pollué la main banale du coiffeur. Je les veux tout simples et noués, aux deux bouts, d'un fil, de peur d'en perdre un seul. On les a coupés soi-même à la tête chérie, dans quelque suprême moment, au plus fort d'un premier amour, la veille du départ. Une chevelure, manteau magnifique de la femme aux jours primitifs, quand il lui descendait jusqu'aux talons et lui couvrait les bras, alors qu'elle s'en allait avec l'homme, marchant au bord des grands fleuves, et que les premières brises de la création faisaient tressaillir à la fois la cime des palmiers, la crinière des lions, la chevelure des femmes. J'aime les cheveux. Que de fois, dans des cimetières qu'on remuait ou dans les vieilles églises qu'on abattait, j'en ai contemplé qui apparaissaient dans la terre remuée, entre des ossements jaunes et des morceaux de bois pourri. Souvent, le soleil jetait dessus un pâle rayon et les faisait briller comme un filon d'or. J'aimais à songer aux jours où, réunis ensemble sur un cuir blanc et graissé de parfums liquides, quelques mains, sèches maintenant, passaient dessus et les étendaient sur l'oreiller. Quelques bouches sans gencives maintenant les baisaient au milieu et en mordaient le bout avec des sanglots heureux. Je me laissais couper les miens avec une vanité niaise. J'eus la honte de n'en pas demander à mon tour, et à cette heure que je n'ai rien, pas un gant, pas une ceinture, pas même trois corolles de roses desséchées et gardées dans un livre, rien que le souvenir de l'amour d'une fille publique, je les regrette.
Alors vous avez peut-être trouvé un peu étrange ce narrateur éperdu devant sa mèche de cheveux. Encore pire, voilà un personnage de Maupassant, dans sa nouvelle « La chevelure, originalité quand tu nous tiens », qui tombe amoureux d'une chevelure tout entière qu'il trouve dans un meuble ancien. Pour votre culture personnelle, le fétichisme des cheveux porte un nom. Il s'agit de la trichophilie. Mon correcteur orthographique ne connaissait même pas le mot, ça ne s'invente pas. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. Or, un soir, je m'aperçus, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, qu'il devait y avoir là une cachette. Mon cœur se mit à battre et je passai la nuit à chercher le secret sans le pouvoir découvrir. J'y parvins le lendemain, en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Une planche glissa et j'aperçus, étalée sur un fond de velours noir, une merveilleuse chevelure de femme. Oui, une chevelure. Une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, qui avait dû être coupée contre la peau et liée par une corde d'or. Je demeurais stupéfait, tremblant, troublé. Un parfum presque insensible, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'envolait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. Je la pris, doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette. Aussitôt elle se déroula, répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre, épais et léger, souple et brillant comme la queue en feu d'une comète. Une émotion étrange me saisit. Qu'est-ce que cela ? Quand, comment, pourquoi ses cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble ? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir ? Qui les avait coupés ? Un amant, un jour d'adieu ? Un mari, un jour de vengeance ? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir ? Était-ce, à l'heure d'entrer au cloître, qu'on avait jeté là cette fortune d'amour, comme un gage laissé au monde des vivants ? Était-ce, à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser et baiser dans ses rages de douleur ? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née ? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une singulière caresse, d'une caresse de morte. Je me sentais attendri comme si j'allais pleurer. Je la gardais longtemps, longtemps en mes mains, puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Et je la remis sur le velours terni par le temps, et je repoussai le tiroir et je refermai le meuble, et je m'en allai par les rues pour rêver. Une chanson étrange, après une nouvelle étrange, vous venez d'entendre un extrait de Madame Pompidou, du groupe Cheveux. Oui, oui, il y a une raison pour laquelle j'ai mis cet extrait, et pas seulement parce que je l'ai dans la tête depuis 2 jours. On va reprendre un peu notre sérieux et revenir vers nos chers coiffeurs. Bien loin de l'admiration béate de notre coiffeur pour dame de tout à l'heure, voici un extrait des Misérables. Sortez vos mouchoirs et vos ciseaux.
Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait dans le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa. « Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle.
Donc merci Mathilde pour ce texte qui nous a rendu sérieux et qui nous a redonné la bonne humeur et la joie de vivre. Voilà, merci
de
beaucoup.
Rien.
C'est le moment de la discussion. Et alors, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé quelque chose pour commencer la discussion, puisqu'on a mis de côté Samson et Dalila, et ce mythe, finalement, des cheveux de Samson qui lui donne sa force, j'ai trouvé que ça avait pas mal d'écho dans les textes qu'on a trouvés, qu'à chaque fois, les cheveux, c'est une force, que ça soit juste une force au niveau de la beauté de la personne qui est contemplée, ou alors vraiment, tous les cheveux qu'on a vu en tant qu'objet, une chevelure, une mèche de cheveux ou même les cheveux de Fantine, qui avait vraiment une force, qui jouait le rôle de personnage ou qui avait une valeur monétaire ou sentimentale très forte. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je raconte des bêtises ?
Alors, à ce propos, justement, en relisant ce passage des Misérables, je me suis dit qu'il y avait peut-être un parallèle à faire entre le fait que Fantine vend ses cheveux et le fait qu'elle commence un petit peu plus tard dans le roman à se prostituer. Et j'ai l'impression, du coup, qu'on peut faire un peu ce parallèle parce qu'elle vend ses cheveux et elle vend finalement sa vertu et comme une partie d'elle, quelque chose qui... Oui, voilà, qui... Je suis sûre que Hugo avait beau être un peu féministe, mais il il était un peu, vous voyez, dans cet imaginaire de la femme vertueuse. Et donc, le cheveu vraiment incarne sa féminité et ce qui fait d'elle une femme et une femme vertueuse. Enfin, bon, j'avais cette impression-là qu'il y avait un parallèle à faire.
Mais je pense que ça peut aussi être une preuve, enfin, une manifestation de force de couper ses cheveux. Couper ses cheveux, ça peut être une, enfin, ça peut être un acte qui fait qu'on refuse d'être réduit à ses cheveux parce que c'est un atout.
Moi, j'ai l'impression que c'est le début de sa chute quand elle les coupe dans le roman.
Oui.
Mais après,
oui,
c'est vrai que.
Mais là, je parlais dans l'absolu.
Oui, bah, par exemple, je dis. Vous voyez dans Mulan le moment où elle se coupe les cheveux, c'est là qu'elle devient une guerrière, vous pensez?
Oui, parce que les cheveux longs, c'est aussi.
En plus, elle le fait à l'épée. Alors.
Oui, ah, ça fait très princesse, ça fait très. Voilà, et les cheveux courts tout d'un coup, femme indépendante, forte, etc. Enfin, on a. Ouais. Un autre imaginaire après qui prend la place.
Donc oui, il y a ce côté-là vraiment l'érotisme de la chevelure et le pouvoir de séduction qu'il peut avoir sur une femme, parce que finalement on n'a eu que des chevelures de femmes dans
c'est
les
ce
textes.
Que je me disais.
Mais du coup Samson, c'est pas vraiment ça puisque c'est juste une force brutale, masculine, guerrière et du coup. Du coup, c'est l'exact opposé de Mulan, parce que...
Quand on lui coupe,
ouais. Il perd sa force guerrière, alors que Mulan, c'est le contraire, elle acquiert son statut de guerrière. Alors là, je l'avoue, hein, je me fais transpercer par trois paires d'yeux féminins. J'ai pas vu Mulan.
Tu avais une chose à faire avant cette émission.
Voilà, j'avais une chose à préparer, c'était voir Mulan, et je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Un jour.
Et
peut-être. Et donc oui, c'est l'exact contraire, Mulan, Samson. Mais du coup, finalement, cette vision des cheveux comme force vraiment guerrière, est-ce qu'on la retrouve finalement dans
Game of Thrones? Bah oui, mais en plus c'est littéraire. J'oublie que c'est pas qu'une série.
George Martin.
Oui, bien sûr. En fait, dans le peuple des Dothraki, qui sont des sortes de guerriers, cavaliers.
Oui, sur des chevaux.
Voilà. Quand ils sont. Les hommes ne se coupent les cheveux que lorsqu'ils sont battus lors d'un combat, lors d'un duel. Et donc, plus la tresse d'un homme est longue, plus il est fort, en fait.
Mais à part ça, ce n'est pas la taille qui compte.
Voilà, exactement.
Mais encore une fois, ici, on voit bien que les cheveux, c'est encore marqué. C'est très féminin. C'est encore un attribut qu'on typifie comme étant féminin, faiblesse, qu'on remarque. Voilà.
On remarque rarement les cheveux d'un homme.
En tout cas, en littérature, il y a, à mon avis, très peu de descriptions, à part Samson, mais encore une fois, il perd ses cheveux à cause d'une femme. Voilà.
Elles sont perfides, tout le monde le sait.
Bon, et bien, puisque Clément est trop timide pour passer au micro et étendre le sujet vers la pilosité, les barbes, tout ça, merci quand même pour ta participation, Clément. C'est déjà la fin de Les yeux ont des oreilles, que nous avons renommé aujourd'hui, et pour toute la semaine, Les yeux ont des cheveux. Je vous laisse imaginer la chose. On espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos voix. On vous imagine bien en train de brosser vos cheveux en nous écoutant. Prenez-en bien soin, qu'il soit pour vous une source de force, de beauté, ou même un élément terriblement sensuel et attirant, bande de tricophiles. Pour terminer, en bonus, Céline va vous lire un extrait de Belle du Seigneur, de Albert Cohen, dans lequel elle vous donnera quelques conseils de séduction. En attendant de les mettre en pratique, vous pouvez aller fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des cheveux. Copyright presque Camille.
Donc, au début, compliment massif et ne crains pas d'y aller à fond, elles avalent tout. Le recours à la vanité est un bon hameçon. Vaniteuse ? Oui, mais surtout si peu sûre d'elle. Elles ont tellement besoin d'être rassurées. Parce que le matin, dans la glace, elles se découvrent un tas d'imperfections. Les cheveux ternes et trop secs, les pellicules ennemies, les pores trop ouverts, les orteils pas beaux. Surtout le dernier, le bossu, le petit infirme avec un ongle de rien du tout. Alors tu te rends compte du service que tu lui rends en faisant d'elle une déesse ? Jamais sûre d'elle-même. C'est pourquoi leur besoin maladif de robes nouvelles qui le feront neuf et de nouveau désirable. Oh, les pauvres ongles trop longs et vernis, leurs crétins sourcils épilés, leur obéissance abrutie aux lois de la mode. Dites-leur que cette année, la mode, c'est une jupe avec un gros trou au bas du dos, et elles courront se mettre des jupes trouées révélant leurs orbes nus. complimente donc tout, même l'absurde bibliothèque catastrophée qu'elle se colle, condamnation éternelle au-dessus de sa tête. Autant qu'une nouvelle robe, les compliments lui sont oxygène, elle respire largement et refleurit. Bref, sois le donneur de foi, et elle ne pourra plus se passer de toi, même si tu n'as pas réussi à la séduire complètement le premier soir. Et elle pensera à toi tous les matins au réveil, se redira tes louanges tout en bouclant sa toison, ce qui semble exciter son pouvoir de concentration. Par parenthèse, ne crains pas d'être scabreux de temps à autre, cela abaisse les barrières. Une fois qu'elle sait que tu sais qu'elle a une toison secrète, que cette toison tu l'imagines, blonde, ou châtaine, ou brune, elle a moins de défense.